Pirate pour une heure de sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure en eau profonde, je salue Mathilde. Salut Mathilde.
Salut Tiffaine.
Et je salue Rémi.
Bonjour.
Salut Rémi. Aminata nous rejoindra pour sa chronique médiatique. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée présenté par notre stagiaire Félix et bien sûr la traditionnelle bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Dans le sous-marin, en ce jeudi, on accueille Mathilde et son flash au niveau de la mer, le flash des infos dont nous aurions pu nous passer. Première réunion de l'Amicale du Gras.
Amateurs de charcuterie, de rillettes, ceci est fait pour vous. Cette amicale qui réunit autour de sa table chefs, vignerons, charcutiers et autres amateurs de cochons s'est donc réunie pour la première fois mardi autour du slogan « Arrêtons de tout dégraisser » et a remis les premiers prix cochons. Un peu folklorique cette amicale du gras puisque certains ont déclaré leur amour au gras par des phrases telles que « Il faut apprendre à manger le gras comme on apprend à faire l'amour en laissant la lumière allumée » ou encore « Assez de ces gens qui enlèvent le gras, sans gras il n'y a pas de goût ». L'amicale a entre autres distingué des prix à l'écrivain culinaire Suzy Palatin, ainsi que Loïc Enaf, PDG de l'entreprise bretonne Enaf, numéro 1 des pâtes et des rillettes en conserve en France, et le chef Yves Candebord. En guise de trophée, ils ont reçu un chouette petit cochon sculpté bleu, blanc ou rouge. Ça vaut le coup d'adhérer pour des kilos à perdre, on repassera.
Justice à présent.
Le témoin était un chien. Un juge d'instruction chargé d'élucider le meurtre d'un homme de 27 ans a tenté de résoudre cette affaire en faisant témoigner son chien. Tango, un labrador de 9 ans, était en effet présent au moment des faits et depuis, selon les parents de la victime, il souffrirait de cauchemars. Qu'à cela ne tienne, le juge a nommé un expert vétérinaire qui a supervisé une petite expérience. Tango et Norman, un autre labrador, étrangers à cette affaire, ont donc été confrontés à un suspect muni d'une batte afin d'observer les réactions de l'animal. Las, Tango est resté de marbre. Une petite expérience qui apparemment n'était pas du tout au goût de l'avocat du suspect interrogé. Blague à part, l'avocat a donc alerté le procureur pour maltraitance envers les deux chiens. Cette histoire un peu surnaturelle n'est pourtant pas la première. En mars dernier, deux hommes accusés d'avoir assassiné une veuve ont laissé pour témoin Théo, le dalmatien de la victime, et avait été auditionné, entre guillemets, un témoignage, entre guillemets, validé par un expert vétérinaire estimant qu'un animal qui est en présence de quelqu'un qui a fait du mal à son maître le manifeste par des signes olfactifs, des signaux physiques, le regard, la position des oreilles, la position du corps. On est chez des fous, avait commenté l'avocat d'un des accusés. Ça manque de base scientifique, avait reconnu l'avocat général. Et là, on rétorque, mais que fait la police ?
En parlant de fous...
Dans un tout autre genre, je vous présente Christopher Dancy, 45 ans, résident à Denver, Colorado, États-Unis. Jusqu'ici, tout va bien. C'est là que les choses se gâtent. Depuis plus d'un an, cet homme cohabite en permanence avec, selon les jours, 300 à 700 capteurs en tout genre, tous reliés à son corps. Son objectif, concentrer, collecter et analyser le maximum d'informations sur lui, sur son comportement et la façon d'améliorer. Température, lumière, humidité, pression atmosphérique, tout est disséqué et calibré. Plus effrayant encore, il vit avec ses Google Glass et son lit, sa voiture et même son pauvre chien sont connectés. Depuis qu'il est devenu l'homme le plus connecté de la planète, Chris a perdu 45 kilos et son chien aussi a eu le droit à un petit régime. C'était fatigant au début, mais tout fonctionne ensemble, je n'ai finalement pas grand-chose à faire au quotidien. Ma vie est réglée, le plus compliqué, c'est sûrement de devoir recharger tous ces éléments, dit-il. Tu m'étonnes, aujourd'hui, Chris est au chômage et espère secrètement que des grandes entreprises s'intéressent à lui. La technologie, c'est bien, mais à ce niveau, ça devient quand même un peu flippant.
Merci Mathilde, on te retrouvera la semaine prochaine. Le nombre d'étudiants en situation de handicap inscrits à l'université a doublé en 10 ans. Comment mener de front situation de handicap et études supérieures? Les établissements sont-ils tous adaptés à l'accueil d'étudiants en situation de handicap? Comment accompagner les étudiants dans leurs études et les aménager en fonction? Pour en parler, le sous-marin accueille ce soir Audrey Boléa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie du relais Andy 3A de l'Université d'Angers et à vos côtés le docteur Marie-Christine Bentejac. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin référent handicap au SUMS. Mais avant d'entamer la discussion dans ce studio, je vous propose d'écouter le témoignage de Thibaut de Martin Prey. Il est déficient visuel. Il a participé à la création de la FEDE, la Fédération étudiante pour une dynamique étude et emploi avec un handicap. Et aujourd'hui, il est le trésorier de cette FEDE. Il est entré dans le monde du travail il y a 2 ans. Il revient ici sur son parcours et sur les difficultés qu'il a rencontrées.
J'ai eu la chance, personnellement, de ne pas avoir tellement subi d'orientation
obligatoire, je dirais, puisque j'ai pu choisir mon parcours d'études. J'ai été intégré dans un milieu ordinaire de la 6e jusqu'à la fin de mon bac plus 5 en école de commerce. Donc je pense que je suis pas tellement concerné par la situation. En revanche, pas mal de mes amis, de mes connaissances, malvoyants ou non-voyants, ou aussi dans d'autres, qui ont d'autres typologies de handicap, ont connu parfois une orientation non choisie vers des filières un peu prédestinées. Bon, pour faire simple, c'est un petit peu les clichés, vous savez, oui, l'aveugle qui va être rempailleur de chaises ou raccordeur de piano. Bon, on pourrait penser que c'est fini, c'est cliché, mais malheureusement, parfois, il perdure encore. Il y a encore des centres de formation qui sont un peu en retard, je dirais, par rapport aux nouvelles évolutions du marché du travail. Je sais que les malentendants sont souvent orientés aussi vers de la comptabilité. Bon, il y a quelques clichés de ce style qui continuent à exister. Il y a encore beaucoup de voies qui sont moins en ligne avec le marché du travail actuel et qui, surtout, ne sont pas un choix de l'étudiant ou du jeune lui-même. L'intérêt, l'objectif, là je parle de la CD, donc c'est l'association à laquelle je participe depuis 4 ans, depuis sa création, qui est une fédération nationale d'étudiants en situation de handicap. Cette association nationale a pour objectif justement d'augmenter le niveau d'ambition des jeunes pour éviter qu'ils soient orientés dans des parcours très fléchés, je dirais, compte tenu de leur handicap.
À quel type d'obstacle, à quelle difficulté est-ce que vous avez été confronté dans vos études, Thibaut ?
Alors, il y a plusieurs types de difficultés. Dans mon cas, c'est souvent les transcriptions en braille, des devoirs, des contrôles, souvent sont pas toujours arrivés dans les temps. Donc souvent, il a fallu tu peux utiliser le système D, c'est tout simple, hein, soit le prof, soit un camarade nous lit l'énoncé et puis on peut compléter l'exercice comme ça, de manière à la voix, enfin je dirais de manière audio. Donc ça c'est bon, plein de techniques de compensation, donc je dirais que c'est pas forcément bloquant, mais ça nécessite quand même plus de motivation, plus de concentration au quotidien. Que ce soit voilà, pour les énoncés, pour suivre les cours en général. Donc ça, ce sont des obstacles inhérents au handicap, mais certains obstacles comme les transcriptions ou l'accès aux classes ordinaires, ça, c'est des choses qui ont beaucoup évolué quand même depuis 10-15 ans, grâce notamment à la loi de 2005 sur le handicap. De plus en plus, maintenant, les enfants accèdent à l'école ordinaire. Ne vont plus forcément dans un milieu spécialisé, mais accèdent à l'école de leur quartier, avec les autres camarades non porteurs de qui ne sont pas sur son handicap. Et donc voilà, ça à mon sens c'est un vrai plus, même s'il faut qu'en parallèle pour les handicaps plus lourds on puisse conserver un dispositif adapté. Mais quand c'est possible, quand le handicap le permet, c'est bien mieux à mon sens d'aller dans un milieu ordinaire pour ensuite être vraiment, je dirais, plus adapté à la société, mieux inclus dans la société. Et après, c'est un vrai plus pour aller à l'université. Comme bien évidemment, tout le monde le sait à l'université, on est quand même plus en autonomie, c'est impersonnel, il faut vraiment se prendre en main. Donc voilà, les jeunes handicapés, les lycéens handicapés qui sont allés dans des classes ordinaires ont beaucoup plus de facilité à aller à l'université par la suite. Et ensuite à trouver un emploi et à évoluer dans le marché du travail.
Alors justement, le marché du travail, vous y êtes depuis 2 ans. Comment ça s'est passé, l'entrée dans la vie active ?
Alors ça n'a pas été forcément évident, mais dans ma situation, bon, j'ai eu la chance, encore une fois, hein, je ne représente pas la majorité des personnes handicapées, j'ai eu un parcours, entre guillemets, plutôt facile, mais enfin facile, j'ai pas rencontré énormément d'obstacles. Donc avec un diplôme, j'ai réussi à obtenir un stage de fin d'études, et à la suite de ce stage de fin d'études, j'ai été embauché, ce qui se passe assez fréquemment, en tout cas dans la société où je travaille, une entreprise de conseil. Néanmoins, c'est pas évident pour tout le monde, et là je renvoie encore aux actions qu'on mène à la FEDE, la Fédération des étudiants en situation de handicap. On se rend compte que voilà, les personnes handicapées, les jeunes handicapés sont les premières victimes de la crise pour trouver du travail, même avec un diplôme, même avec la politique des quotas qui est en place, hein, qui oblige les entreprises à embaucher 6% de personnes handicapées. Malgré tout ça, c'est pas évident de trouver un travail, même avec un diplôme, en situation de handicap. On a encore pas mal de situations plus délicates. Et on a au sein de la FED différentes commissions d'entraide entre jeunes, notamment sur l'insertion professionnelle et ensuite sur l'évolution de carrière. Parce que un des constats, c'est que il est, je dirais pas facile, mais c'est une chose de s'en faire embaucher, mais c'est encore une autre chose. Et là, j'y suis confronté maintenant au bout de 2 ans que je travaille. C'est une autre chose de s'épanouir là où on a été embauché et de vraiment trouver sa place, de progresser dans la société ou dans l'administration.
Merci beaucoup Thibaut d'avoir répondu aux questions de Radio Campus.
Mais de rien, avec plaisir.
Vous entendiez donc Thibaut qui a participé à la création de la FEDE. J'ajoute à sa demande que la FEDE est ouverte aux Angevins, ce n'est pas qu'une association parisienne. N'hésitez pas donc à aller voir si vous voulez vous renseigner sur le site fedeh.org. Est-ce qu'on peut commencer, Audrey Boléa et Marie-Christine Bentejac, par parler de cette question de l'orientation que Thibaut évoquait au début? C'est-à-dire, est-ce que, effectivement, dans votre activité, vous rencontrez des étudiants qui, par leur situation, ont choisi telle ou telle orientation, ou est-ce que c'est fini, cette époque-là? Audrey Boléa.
Peut-être, effectivement, encore certains étudiants qui, en raison d'un handicap, ne s'autorisent pas à se projeter sur des études longues, alors qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Donc, on verra tout à l'heure avec ma collègue, on pourra présenter les aménagements qui peuvent être mis en place, puisque tout n'est pas possible, on est quand même dans un cadre. Mais effectivement, oui, c'est vrai que la question du handicap, des fois, peut bloquer encore, bien que ça tend quand même à changer, mais c'est une réalité encore.
Marie-Christine Bentejac, vous partagez le constat d'Audrey Boléa?
Oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui n'osent pas, mais quand même, on voit des gens handicapés qui ont une orientation qui leur correspond. Donc c'est assez satisfaisant et on essaye de les aider au maximum pour obtenir des résultats positifs et puis l'aide des composantes.
Alors justement, l'aide que dont vous êtes aussi chargée, Audrey Boléa, au relais 3A, Andy 3A, ouais. Et dont Marie-Christine Mettejac, que vous mettez en place aussi au SUMS, ça consiste en quoi ces aides? C'est des aménagements sur le temps des cours? C'est des aménagements aussi, j'imagine, sur le temps des examens?
Alors, ce sont des aménagements tout au long du cursus universitaire. Donc, aussi bien dans le cadre des cours, effectivement, que des contrôles continus, des examens. Enfin, voilà, c'est pour que le parcours universitaire des étudiants en situation de handicap, voilà, essayer de compenser ce handicap, ou en tout cas les situations, puisque deux personnes qui qui auraient le même handicap n'ont pas forcément besoin des mêmes aménagements puisqu'elles ne vont pas se trouver en difficulté dans les mêmes situations. C'est vraiment individualisé. Donc c'est vraiment pouvoir répondre aux demandes qui sont propres à chaque personne pour que son parcours se déroule dans les meilleures conditions.
Voilà, on travaille au cas par cas en fait. Dans les aménagements pour les cours, on peut avoir des aménagements, par exemple, de mobilier adapté, de matériel. Pour une personne malentendante, ça peut être un micro HF qui est placé sur le professeur pour qu'il puisse entendre correctement, des ordinateurs, des retranscriptions en braille, comme on l'a vu avec le jeune homme avant. La transmission des cours par les professeurs sur des clés USB. Donc, un maximum de choses qui peuvent être faites assez facilement dans la majorité des cours, ou des agrandissements, des traductions. On travaille en général avec les centres comme Montéclair pour faire les traductions. Ce ne sont pas les professeurs qui peuvent faire les traductions en braille.
Alors il y a tout cet aspect assez technique, en fait, plutôt matériel, et puis il y a aussi une aide humaine qui est apportée tout au long de l'année.
Oui, donc il peut y avoir également en parallèle de ces aides, on va dire plus techniques, des aides humaines telles que par exemple la prise de notes pour des étudiants et écouter en même temps l'enseignant et prendre des notes, tout le cours en notes c'est compliqué, soit pour des raisons de fatigabilité ou autres, enfin diverses raisons.
Donc on peut solliciter un handicap moteur qui empêche la prise de notes, voilà. Bêtement.
Aussi, oui, tout à fait. Donc, dans ce cas-là, voilà, c'est un étudiant de la même promotion qui est sollicité. Donc, on est sur la base du volontariat. Donc, à noter qu'il y a des étudiants qui interviennent bénévolement et puis d'autres étudiants dans le cadre d'un contrat étudiant, donc avec une rémunération.
C'est-à-dire qu'on les demande. C'est un aménagement qui est demandé, spécifiquement.
Ça concerne combien d'étudiants à l'Université d'Angers, le relais Andy 3A ?
Là, cette année, depuis, pour l'année universitaire 2013-2014, depuis septembre 2013 jusqu'à ce jour, 116 étudiants ont bénéficié ou bénéficient encore actuellement d'aménagements, que ce soit des aménagements durant les temps de cours ou d'aménagements durant les examens. Puisqu'on n'est pas dans le même cadre au niveau des aménagements de cours, aménagements pédagogiques, on va avoir peut-être une plus grande marge de manœuvre, tandis que dans le cadre des aménagements vraiment d'examen, on est vraiment dans un cadre bien réglementaire, puisqu'il y a des textes qui encadrent ces aménagements. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure que je disais, on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut n'importe comment, puisque...
C'est quoi les obstacles, alors, pour qu'on comprenne bien ce qui est dérangeant sur les temps d'examen, en fait, que vous ne pouvez pas mettre en place ? Mais c'est plus difficile à mettre en place.
Quelque chose qui empêcherait la validité ou la validation du diplôme, par exemple ?
Puisque le diplôme va valider... quand on passe un diplôme, on valide des compétences. Et c'est vrai que ça peut être délicat, difficile, parce qu'il faut quand même juste noter auparavant que les objectifs de tous ces aménagements, c'est... D'une part, compenser le handicap ou les difficultés. Il y a, parce qu'on n'est pas forcément non plus sur des situations de handicap, mais des situations des difficultés.
Ça peut être quoi, par exemple ?
Par exemple, ça peut être des troubles psychiques, par exemple, ou... On ne va pas forcément... Alors, à noter quand même que le handicap, il y a une définition aussi légale, avec une altération substantielle, durable, définitive, permanente. Donc voilà. Il y a une distinction à faire entre vraiment... alors après, ce serait plus du ressort de la MDPH qui évalue, justement. Est-ce qu'on est vraiment
la
dans cette situation ? Maison départementale des personnes handicapées. Et à noter qu'en Maine-et-Loire, ça s'appelle la MDA, Maison départementale de l'autonomie. C'est une petite particularité au niveau de la dénomination. Donc voilà, c'est compenser les difficultés, c'est également favoriser l'autonomie des personnes, la mise en place de ces aménagements, et c'est pour au final rétablir l'équité entre justement étudiants qui, en raison de difficultés rencontrées, ont besoin qu'on mette des choses en place, et des étudiants pour qui il n'y a pas de besoin de ces aménagements.
C'est une définition qui date de la loi de 2005, cette définition sur le handicap ou...
Non, c'était antérieur, ça.
C'était antérieur,
il me semble.
Et le relais Andy 3A ?
Puisqu'il y a plusieurs types de handicap, donc on les considère différemment. C'est un handicap temporaire, par exemple, quelqu'un qui s'est cassé le bras, ça n'entre pas du tout dans le texte de loi. Donc là, c'est un aménagement qui est sollicité au bon vouloir des composantes. Mais les gens rentrent dans le droit commun, en fin de compte. Donc on ne peut pas exiger quelque chose de la part de la composante. Sinon, c'est les sessions de rattrapage, pour les examens, bien sûr.
Le relais Andy 3A, c'est quelque chose qui a été mis en place pour suite à la loi de 2005, la loi sur le handicap.
Non, ça existait déjà avant. Ça a été mis en place dans les années 90. Donc voilà, ça a été impulsé par des personnes de l'université. Mais par contre, les missions handicap ont été... Enfin, chaque établissement d'enseignement supérieur, depuis la loi de 2005, doit être doté d'une structure d'accueil pour les étudiants en situation de handicap.
Malgré les aménagements que vous apportez pour ces étudiants, quels sont les obstacles qui continuent à être, quels sont les problèmes qui continuent à être rencontrés par ces étudiants en situation de handicap hors en fait temps pédagogique ou temps d'examen, ça peut être la vie quotidienne sur le campus. Est-ce que vous notez vous des obstacles qui restent à franchir?
On essaye dans les mesures du possible de les aplanir, puisque la mission d'Audrey, justement, c'est de rencontrer les équipes pédagogiques et de rencontrer les composantes pour faciliter au maximum. Donc il m'arrive dans mes aménagements, par exemple, moi, de simplement de faire des demandes et des courriers pour qu'il y ait un passage prioritaire aux cantines au resto U, pour un accès à une salle de soins ou faire venir... Un soignant comme un kinésithérapeute pour des soins, une pose de sonde, des massages ou des voilà, il y a des actes particuliers, mais c'est vraiment au cas par cas pour chaque étudiant. On voit ensemble tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à demander. Ensuite, je passe le relais à Audrey qui voit et adapte avec les composantes.
On essaye
au maximum.
justement, c'est aussi ça qui est important, c'est de pouvoir, pour notamment les futurs étudiants qui vont, qui prévoient de rentrer en septembre prochain, par exemple, de prendre contact avec la mission handicap suffisamment tôt pour qu'on puisse déjà évaluer ensemble les aménagements qui vont être à prévoir, parce que c'est vrai que quand on arrive au moment de la rentrée, ça se met vite en place. Enfin, ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors que quand on prend ce temps d'échange, de réflexion, ça permet aussi justement de mieux anticiper et de prévoir. Je pense notamment, par exemple, s'il y a besoin de prévoir l'accès à une salle pour une personne qui a mobilité réduite, et ben, on peut l'anticiper dans le planning des salles, par exemple, justement en faisant le lien avec les composantes, les services de scolarité. Donc voilà.
On va marquer une petite pause dans cette discussion avec Little Dragon Clap Clap. Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers et le jeudi dans le sous-marin, c'est Économie avec Rémi.
Contribution pour le remboursement de la dette sociale, impôt de solidarité sur la fortune, contribution sociale généralisée, taxe professionnelle, taxe sur la valeur ajoutée. J'adore les impôts, les taxes. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ces ondes. Et les taux, ah les taux, 0,5%, 7,5%, 1,1%, 5,5%, du plaisir.
Tu te calmes Rémi, tu te calmes et tu nous expliques en quoi consistent certains de ces impôts.
Merci Tiffaine. Aujourd'hui, on va donc parler de la CSG. C'est quoi ? Un truc de vicelard, vous allez voir. La contribution sociale généralisée. Elle a été mise en place par Michel Rocard, Premier ministre d'alors en 1990, pour essayer de boucher le trou de la Sécu. C'est un impôt qui représentait 1,1% sur tous les revenus, loyers, salaires bien sûr, mais aussi dividendes et plus-values par exemple. Aujourd'hui, le taux est monté à 7,5%, ce qui rapporte 90 milliards d'euros par an, soit presque deux fois plus que le fameux impôt sur le revenu. Avec la CSG, on a fiscalisé le financement de la protection sociale. Celui-ci ne s'assoit plus désormais uniquement sur les cotisations sociales. En plus, la CSG est un impôt bien pratique puisqu'il est payé à la source et pas un an après, en faisant une déclaration. Mais là où la CSG est marrante, c'est généralement le moment où le monstre de la comptabilité qui sommeille en moi se réveille, c'est quand on sait qu'une partie de la CSG est déductible et une autre non déductible des impôts.
Hein ?
Je t'explique, Tiffaine. Oh. Donc, une partie déductible. Lorsque vous recevez votre paye, vous avez toutes les cotisations, plus la CSG qui apparaît, avec marqué CSG déductible et CSG non déductible. Mettons 10 euros pour la CSG déductible. Alors, quand vous remplissez votre feuille d'impôt, votre revenu est amputé de 10 euros. Normal, vous avez déjà été prélevé. Ce serait aberrant qu'on vous refasse payer. Eh ben, c'est ce qui se passe avec la CSG non déductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la déclarer aux impôts. Vous payez votre CSG non déductible et ensuite on fait comme si vous n'aviez rien payé. Si elle est de 20 euros, on va prélever l'impôt sur le revenu sur votre salaire directement perçu plus les 20 euros que vous avez déjà payés. On est imposé sur des sommes qu'on n'a pas perçues en fait. Bon système, à peine compliqué, qui réconcilie les Français et l'impôt comme vous vous en doutez. Mais vous connaissez la petite sœur de la CSG ? C'est la CRDS. Contribution pour le remboursement de la dette sociale. Mis en place en 1996 par Alain Juppé, 0,5% sur tous les revenus et non déductible. Autre point délicieux sur la CSG. Elle n'est prélevée que sur 98% de votre revenu, pas sur 100% comme on aurait pu le croire. En 2011, lors du plan de rigueur de Nicolas Sarkozy, on a fait passer ce taux de 97% à 98%. Comme la CSG est prélevée sur une plus large assiette, elle rapporte plus, et même beaucoup, puisqu'elle a rapporté 600 millions à l'État cette année, soit trois fois plus que la fameuse taxe exceptionnelle sur les hauts revenus de plus de 250 000 euros, qui a été instaurée en même temps. Donc arrêtez de nous faire croire que vous êtes des Robin des Bois au cœur pur, c'est toujours plus facile de taper sur les mêmes. En plus, la CSG a cet inconvénient de ne pas être progressive, et donc plus juste comme l'impôt sur le revenu. C'est 7,5 pour tout le monde, riche ou pauvre. D'où l'idée de Thomas Piketty de fusionner impôt sur le revenu et CSG, afin d'avoir une CSG progressive et un impôt sur le revenu prélevé à la source. Cette idée a d'ailleurs été reprise par le gouvernement Hérault pour calmer le ras-le-bol fiscal.
Reprise, vraiment ?
Ah oui, excuse. Reprise, puis abandonnée et définitivement enterrée. Vous n'en entendrez plus jamais parler.
Merci Rémi, j'ai tout compris. Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers. Nous parlons des étudiants en situation de handicap, des difficultés qu'ils peuvent encore rencontrer et des évolutions qui ont été faites depuis quelques années en compagnie d'Audrey Boléa du relais Andy3A de l'Université d'Angers et du docteur Marie-Christine Bentejac, médecin référent handicap au SUMS. Tout à l'heure, en début d'émission, Thibault, qu'on a eu au téléphone en interview, évoquait la loi de 2005 sur le handicap. Donc je rappelle juste aux auditeurs, c'est une loi qui prévoit l'accessibilité généralisée pour tous les domaines de la vie sociale, le droit à la compensation des conséquences du handicap. C'est une loi qui a beaucoup fait évoluer les choses. Ça a fait évoluer les choses peut-être déjà en termes d'accessibilité, tout simplement de manière pratique. Est-ce que vous le constatez, vous, à l'Université d'Angers, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines qui ont évolué depuis 2005?
Alors, par rapport à l'université d'Angers, moi, comme je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, la position avant 2005, je ne peux pas en discuter. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites justement pour rendre accessible alors aussi bien le bâti. Et il y a toujours des travaux. Enfin, à présent, dès qu'il y a des projets de restauration ou de travaux, il y a cette notion d'accessibilité qui est prise en considération. Il y a également la prise en compte justement de l'accessibilité des formations par le biais des aménagements. Mais comme je disais tout à l'heure, quand la structure handicap s'est mise en place déjà aux alentours des années 2000, années 90-2000 à l'université, il y avait déjà ce souci en fait d'accueil des étudiants en situation de handicap et d'accessibilité. Après, c'est plus au niveau de la société. Oui, je pense qu'il y a quand même eu la loi de 2005 a impulsé plein de choses et a permis de faire avancer.
Ça va se mettre en place petit à petit. Les échos qu'on en a, c'est à chaque fois qu'il y a un bâtiment qui est construit, qui est vraiment mis aux normes. Après, quand il y a des réfections, on en a vu quelques-uns. Au SUMS, par exemple, ils ont commencé. Ils nous ont mis des portes qui s'ouvrent toutes seules. Et c'est vrai qu'on reçoit les étudiants en fauteuil. C'est quand même indispensable dans le service de soins.
Donc ça se fait petit à petit.
Petit à petit.
Audrey Bollea, vous parliez aussi du regard en fait, qu'on porte sur le handicap. Est-ce que ce regard, il évolue?
J'ai quand même l'impression, oui, que ça... Alors, évidemment, il y a encore du chemin à faire, du travail à faire, de sensibilisation, d'information, notamment par rapport au handicap qui ne se voit pas. Parce que autant un handicap qu'on peut voir, qui est visible, il sera peut-être, je pense, à ce jour, mieux perçu. Bien que là encore, ça change et ça
bouge. Accepter peut-être.
Accepter qu'un handicap qui ne se voit pas, ou on se dit cette personne-là, c'est non, elle n'est pas handicapée, alors que si. On peut être en situation de handicap, mais que ça ne se voit pas. Et puis voilà, et puis c'est pas marqué sur votre front. C'est comme voilà, quand on informe les personnes sur les droits justement qu'une reconnaissance de son handicap peut ouvrir, des fois on peut se trouver avec la réponse suivante qui est ben oui, mais je veux pas être étiquetée handicapée.
Donc, je veux pas que ça se sache.
Voilà, je veux pas que ça se sache, je veux pas être étiquetée handicapée, même certains aménagements qu'on peut proposer, c'est oui, mais je veux pas que ça se sache. Voilà, il y a aussi ce travail d'information, de. Même par rapport aux aménagements qui peuvent être mis en place, c'est qu'on essaye quand même vraiment de préserver une discrétion. Donc, voilà.
Après, ça dépend du handicap. Une personne qui a nécessité d'appareillages particuliers, qui font du bruit, ou une secrétaire assistante pour prendre les notes le moment d'un examen, par exemple, sera forcément mise dans une salle indépendante. Même s'il y en a plusieurs qui sont dans la même salle, et on est bien obligé de le dire. Donc la discrétion a une limite dans l'efficacité des aménagements qu'on met en place.
Je vous propose d'écouter Samuel Ibois. C'est un jeune étudiant qui a monté l'association Indimine à Nancy pour faire accepter le handicap aux étudiants non porteurs de handicap. Nous l'avons joint par téléphone. Bonjour Samuel Ibois.
Bonjour.
Vous êtes originaire d'Angers et vous étudiez maintenant à l'école des mines de Nancy. Et vous avez également créé Indimine, une association destinée aux étudiants en situation de handicap. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette association?
Je pense que la motivation, elle vient d'une prise de conscience que j'ai eue au niveau du regard envers les personnes en situation de handicap entre ma famille et la société en général. Pour moi, ce regard interroge notre conception de la normalité. Et pour moi, ce qui est normal, c'est que si on veut être bon à l'école, il faut travailler. Si on veut être bon en sport, il faut s'entraîner. Après, parmi ces sportifs et ces travailleurs, certains ont deux jambes alors que d'autres n'en ont qu'une. Certains lisent avec leurs yeux et d'autres avec leurs doigts. Donc c'est vraiment la normalité, elle est dans l'action réalisée. Et la différence, elle est dans les moyens utilisés. Et c'est vraiment cette conception que j'essaye de transmettre. Et j'ai vraiment une énorme motivation à transmettre ce message, et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager, de lancer cette association pour, ne serait-ce qu'à l'échelle des étudiants de mon école, faire passer ce message.
Mais c'est un sujet auquel vous êtes confronté personnellement?
Alors, dans ma famille, j'y suis plus particulièrement sensible. J'ai mes grands-parents sont en situation de handicap, et ma famille aussi plutôt engagé dans le domaine du handisport. Mon père est directeur sportif de l'équipe de France paralympique de tir à l'arc. Et donc c'est vrai que depuis assez longtemps, je suis confronté, on va dire, même si ce terme est assez différent de ce que j'entends, mais je connais, oui, je suis en lien avec le milieu, et donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai peut-être une sensibilité un peu particulière par rapport aux autres. Oui.
Concrètement, l'idée, c'est de faire passer ce message aux étudiants. Comment vous y prenez ?
On a commencé par des petites choses toutes simples. On a projeté, on a organisé plusieurs séances où on projetait des films traitant du handicap, et après on se réunissait, on en parlait tous ensemble. On a fait ça à trois reprises. On a également aidé les comités régionaux de Lorraine Handisport à organiser une journée de sensibilisation au handisport pour des élèves de collège. Donc là, on a été bénévole sur cette journée et on a contribué à l'organisation des ateliers. Et également, on a fait également ce dans le domaine du handisport au sein de l'école. Il y avait un événement organisé sur le campus et on a installé des ateliers comme le torball. Donc c'est du football, une sorte de sport de balle en tout cas pour les personnes déficientes visuelles, et du basket en fauteuil. Donc ça, c'est des actions plutôt concrètes. Également, au niveau très concret, on a réalisé un court-métrage qui présente l'engagement de l'école et qui présente aussi le message qu'on veut faire passer. Début juin, on va organiser une semaine en dynamique, vraiment banalisée au niveau de l'école, où chaque jour, il y aura un événement, que ce soit une conférence, des témoignages, des ateliers pour aborder le handicap. Et petit à petit, oui, ce qui est notre mission, c'est de changer le regard des gens. Un projet qu'on a, c'est Sport en solidaire, ça s'appelle. Et ce sera fin août, et on va partir dans les Vosges en week-end entre étudiants handicapés et non handicapés pour faire des sports extrêmes. On a au programme du parapente, du VTT, du rafting. Et donc ça va être vraiment l'occasion de partager tout ensemble un moment festif et très sympathique. Donc c'est aussi un des gros projets de l'association et qui nous motive vraiment.
Quel retour vous avez de la part des étudiants ? Est-ce que ça fonctionne justement ? Est-ce que les mentalités évoluent ?
Alors ça dépend des fois, mais c'est vrai que la plus grosse difficulté, c'est de mobiliser les étudiants et de les interpeller. Au début, les gens sentaient, enfin peu de personnes répondaient. Et là, je pense que c'est effectivement ce qui était le problème, c'est que le handicap est un sujet qui freine un peu les gens, qui leur fait un peu peur. Donc c'est vraiment, on a essayé d'enlever cette part de mystère en s'intéressant à faire un événement convivial. Et donc après, petit à petit, on a eu de plus en plus de personnes présentes. Et là où ça a été un peu la consécration pour moi, j'ai l'impression, c'est au niveau des ateliers de sport. Bah, finalement, des personnes qui au départ me croisaient, me disaient « Ah non, je ne monterai jamais dans un fauteuil, ça porte malheur. » Ben, ces personnes sont montées dans le fauteuil, ont joué au sport avec des personnes en situation de handicap, et ils sont vraiment éclatés. Et ça, vraiment, je trouve que ça a été très positif. Et là, c'est le sport, ça c'est ma conception, le sport est vraiment un moyen aussi de changer ce regard par une approche vraiment, vraiment dynamique. Et là, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, le message commençait à passer.
Et vous pensez qu'une association comme la vôtre devrait s'installer un peu partout, dans toutes les villes, dans tous les campus de France ? Est-ce que ça manque actuellement ?
Alors ça, c'est la deuxième partie de mes missions cette année. Je suis aussi vice-président de la FEDE, et donc je suis responsable de la vie associative. Et c'est vrai qu'on essaye, en collaboration avec la FEDE justement, de développer ces initiatives étudiantes, puisque c'est pas un phénomène totalement isolé. Il y a quand même beaucoup d'associations déjà dédiées à cette cause et à ce combat, mais c'est vrai qu'on essaye encore plus de les stimuler pour toucher encore plus large public.
Merci beaucoup Sam Malibois d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Angers.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Audrey Boléa, Marie-Christine Bentejac, on a entendu l'exemple de l'association de Sam Malibois en 10 mines pour sensibiliser les étudiants au handicap. Est-ce que c'est encore important de sensibiliser les étudiants sur ces questions-là ? Est-ce qu'il y a encore une question de regard et de préjugés ?
Oui, et pas que les étudiants, toute la communauté universitaire. Et c'est aussi la démarche actuelle, puisqu'il y a à présent, on demande aux établissements d'enseignement supérieur, donc pas que les universités, mais tout établissement d'enseignement supérieur, d'adopter ce qu'on appelle un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Et c'est vraiment mener des actions, donc à différents niveaux, mais aussi bien à destination des étudiants que des personnels. C'est vraiment, voilà, c'est aussi pour faire évoluer le regard et informer, sensibiliser.
Rendre tout ça normal.
Voilà.
Marie-Christine Bentejac, vous vouliez ajouter quelque chose sur les préjugés qui peuvent...
Parfois, c'est difficile, je pense, à admettre ou accepter un handicap qui ne se voit pas, principalement. Quelqu'un qui a des troubles psychiques, c'est évident qu'il peut être en difficulté majeure, comme quelqu'un qui est dépressif, tout bêtement. Et ça ne se verra pas forcément. Autant on voit très facilement une dépression chez un adulte que chez un enfant, un jeune, c'est peut-être parfois masqué.
On va conclure. Vous vouliez juste ajouter qu'il faut, pour la rentrée prochaine, il faut se manifester assez rapidement auprès du relais, on dit 3A, enfin en tout cas dès qu'on est au courant, pour être pris en charge et bénéficier d'aménagements.
Oui, parce qu'on peut avoir des handicaps qui se déclarent en début ou en cours de cursus. On peut avoir un cancer, par exemple, qui se déclare. Ça arrive, malheureusement. Et il faut agir rapidement aussi pour pouvoir mettre en place une aide et un aménagement sur plusieurs années, par exemple.
Dans la mesure du possible, c'est de... Voilà, qu'on puisse intervenir, de préparer suffisamment en amont. Ça permet aussi de faire le lien avec les autres services. Je pense notamment aux assistantes sociales pour tout ce qui va être question, par exemple, de logement. S'il y a besoin d'accéder à un logement adapté, voilà, faut aussi qu'on puisse faire le relais vers les services compétents. Donc, dans la mesure du possible, oui, se manifester.
Dès qu'on peut le faire.
Voilà.
Merci beaucoup Audrey Boléa et docteur Marie-Christine Bentejac d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus Angers.
Merci.
Tout de suite, on va écouter Mike Black de Mo Colors. Jeudi dans le sous-marin sur Radio Campus Angers, on retrouve Aminata qui décortique un sujet d'actu par le prisme des journaux. Salut Aminata.
Salut Tiphaine.
Le Rwanda marque les 20 ans du génocide et la France est pointée du doigt.
Lundi, les journaux fêtaient un triste anniversaire, celui des 20 ans du génocide rwandais.
Un retour en arrière ?
Il y a 20 ans, au Rwanda, dans le cadre d'une guerre civile, 800 000 Rwandais, majoritairement des Tutsis, ont été tués. C'est d'abord une guerre politique qui devient petit à petit ethnique. Dans un premier temps, les journaux décrivent les faits et accentuent avec un vocabulaire terrifiant. Pour le républicain lorrain, c'est le 20e anniversaire d'une monstruosité. Libération explique un des aspects dramatiques du génocide le plus rapide de l'histoire. Les bourreaux n'étaient plus des hommes en uniforme, mais l'épicier, l'instituteur, le voisin.
Mais il y a une crispation entre la France et le Rwanda.
Le président rwandais, Paul Kagame, a réitéré lundi ses accusations contre la France à l'occasion des cérémonies de commémoration du génocide de 1994 à Kigali.
Les versions des journaux divergent et le rôle de la France est flou.
La Croix et Le Monde sont catégoriques. Pour le quotidien catholique, la France n'a pas participé à ce génocide, mais elle a conscience de ne pas l'avoir empêché. Quant au journal Le Monde, il soulève le fait qu'aucune étude n'a été menée pour affirmer ou non les accusations exprimées par le président rwandais. Aucune preuve formelle n'existe de l'implication des soldats français dans les tueries. Le quotidien Libération reste, lui, plus sur ses gardes. Le rôle de la France dans ce drame reste singulièrement obscur, entre carence, ingérence tardive, voire complicité passive. Le télégramme mené par Jean Guisnel, lui, donne son avis. Il est absurde d'accuser l'armée française d'y avoir participé. D'autant plus qu'elle a été la seule à être intervenue sur place. Pourquoi le président Kagame a décidé de rallumer la polémique ?
Les journaux sont clairs sur un point, Paul Kagame n'aurait pas exprimé ses accusations pour rien, alors quelle stratégie ?
Stratégie ou pas, les journaux sont catégoriques sur le sort du président rwandais et les prises de position vont bon train. Pour Ouest-France, sa gestion autoritaire ne le met guère en position de donner des leçons de démocratie et son action déstabilisatrice dans la région n'en fait pas un faiseur de paix. Selon la Nouvelle République du Centre-Ouest, voilà que Paul Kagame, en dictateur habile et impitoyable, ravive sa politique hostile à une France bouc émissaire, tout en muselant ses opposants qui visent plus de démocratie. Comme le décrit les dernières nouvelles d'Alsace, il a donc choisi de prendre en otage la mémoire du génocide. Pratique contre feu. Le timing est parfait, le sujet idéal pour choquer les consciences. Enfin, pour Sud-Ouest, le président rwandais a sans doute trouvé commode de détourner l'attention.
Le Monde publie un dossier passionnant qui redonne espoir.
Oui, parmi toutes ces accusations, Le Monde publie un dossier qui s'intitule « Avoir 20 ans au Rwanda ». Le journal aborde la vie, les jeunes de 20 ans qui n'ont pas vécu le génocide, mais qui en ont subi des séquelles. Des séquelles de la vie, de la ville bien sûr, mais aussi les blessures des parents. La jeunesse rwandaise veut maintenant tourner la page, mais elle est constamment rattachée à cette tragédie. Le dossier réunit témoignages, photos et anecdotes. On y retrouve par exemple le jeune et ambitieux Colbé, des rêves plein la tête et une envie de réussir. Il dit « J'ai toujours eu l'ambition de faire quelque chose de grand. La mode est sa passion et dans l'arrière-cour de la maison familiale, il a aménagé une boutique de fripes achetée sur les marchés de Kigali. » Enfin, comme le conclut Libération, il est vital de chercher à comprendre les origines de ce déchaînement de violence. Et surtout d'en poursuivre les instigateurs, afin que chacun sache qu'il ne saurait y avoir impunité pour ses crimes.
Merci Aminata, on se retrouvera donc jeudi prochain pour un nouveau Périscope. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine présentée ce soir par Félix, notre stagiaire. Salut Félix.
Salut Tiffany.
Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir, Félix ?
Ce soir, à 20h, deux conférences sont prévues. L'une aura lieu à l'UCO et s'intitule une police angélique. L'autre se déroulera à l'Institut municipal et aura pour thème la Bible et l'islam dans la peinture. Pour plus de fun, rendez-vous au bar du quai pour une soirée slam à la même heure. Toutes ces activités sont gratuites. À 20h15, une ciné-rencontre aura lieu au 400 coups avec le réalisateur de Braddock America. Pour celle, il faudra payer de 4 à 7,60€. Beaucoup de choses sont prévues à 20h30. Pour commencer, au Joker Pub, du rock alternatif québécois joué par le groupe Grimskuk, 4€ en pré-vente et 6€ sur place. Pour plus de sérieux, une conférence sur l'Iliade et la guerre de Troie aura lieu à la médiathèque Toussaint et celle-ci sera gratuite. Du cinéma est également prévu. Une conférence, ce concert autour du cinéma de Charlie Chaplin est organisée à l'espace culturel de l'Université d'Angers. Cela coûtera entre 3, 5 et 8 euros. À 20h45, au Shabada, aura lieu la soirée Angers Dub Session.
Kanka Live, Mystica Sound et Jacques Garden seront présents. Les prix varieront de 12, 14 à 16 euros. À 21h30, Aeris et Electrical Woods donneront un concert au T-Rock Coco. En même temps, au Café Latin, Jill Underwood Party pour 2 euros avant 1h30. Enfin, 22h, Oja Carré nous présentera Let Me Live My House by Ben.
Merci Félix, il y a donc des choses à faire ce soir à Angers.
Voilà.
Tout de suite sur le 103 FM, vous retrouvez Turbulence, l'émission groupe locaux du 103, avec Johanna et Yann qui reçoivent ce soir Sweet Gum Tree avec une petite session live en fin d'émission. Voilà, il est l'heure pour nous de débrancher les hydrophones. Vous pouvez nous réécouter demain à 13h sur le 103 FM en rediffusion ou alors en podcast sur notre site internet le www.radiocampusangers.com. On vous laisse avec la bulle sonore. Radio Campus Angers s'associe à Face B pour vous faire découvrir des créations sonores. Ce soir, voici un extrait du 6e épisode de la série Accident de parcours. Il est signé Marie-Charles qui nous parle de Glenn Gould. L'intégralité de ce docu est à retrouver sur notre site internet. On vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Bah écoute, là à l'atelier, j'ai vu une amie, enfin ma pote Sylvie, quoi. Et en fait, je lui ai demandé si elle connaissait Glenn Gould. Et elle m'a demandé, Glenn Gould, enfin est-ce que c'est l'actrice? Je dis non, est-ce que c'est le musicien de jazz? Je dis, bah écoute, je sais pas, mais en fait, c'est un pianiste. Et il aime chanter pendant qu'il joue du piano. Et du coup, comme il veut pas qu'on entende le son de sa voix, mais tu vois, là, c'est pas.
Un gargarisme.
Du coup, comme il veut pas qu'on entende. Quand il chante, ou ça gênait les gens, etc., il met un masque à gaz. Et donc tout le monde trouve ça bizarre. Il dit, mais non, c'est très simple. Je mets un masque à gaz, comme ça vous m'entendez pas chanter, et moi je peux continuer de chanter tranquillement. Et ça l'a fait marrer. Et en fait, elle comprend tout à fait ce type de logique. Quoi.
En fait, c'était un des mouvements de la suite en classe de Bach. Et puis, pam, pira, tita, tita, tata, tita. Ça, c'est la partie majeure, et après, qu'il y a des.
Oui, j'habitais au troisième étage, et j'avais pas d'interphone. Du coup, j'avais bricolé ça amusait beaucoup de gens, un petit sac, en fait, avec au bout d'une ficelle, et je balançais les clés, en fait, par la fenêtre de l'ami qui venait.
Gould, nous, me dit quelque chose, mais à peine. Voilà, et j'ai commencé par mettre ce disque parmi les 60 que j'avais acheté. Et ça a été le chemin de Damas. Quelques années plus tard, nous avons eu la chance, enfin j'ai eu la chance de commencer mon travail avec lui qui a duré pendant les 10 dernières années de son existence.
Yellow submarine, we all live in a yellow submarine.